Objectif Santé, Karen Taïeb.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en septembre pour commencer cette année d'Objectif Santé. Et quoi de mieux que de parler de nos enfants, de nos ados? C'était la rentrée scolaire il y a quelques jours et j'ai le plaisir de recevoir Nathalie de Bois-Grelier. Bonjour.
Bonjour.
Et vous venez de sortir ce livre « Élever son ado sans baisser les bras ». Et il y a un petit sous-titre qui est très intéressant, guide pratique de l'éducation positive. Bien sûr, on va parler de tout ça, mais dès que je vois le mot positif, déjà, je me dis que ça va dans le bon sens. Comment vont nos ados, Nathalie de Bois-Grelier?
Je suis triste à le dire, mais ils vont pas bien. Ah ouais. Et il y a énormément d'angoisse et de stress des parents. Et depuis 2 ans, même, c'est exponentiel avec Parcoursup et le nouveau bac qui arrive. Et il est important...
Qu'est-ce qui va changer? Parce que j'imagine que vous êtes un peu intéressée à cette question-là. Pourquoi ça les interpelle? Pourquoi ça les stresse, comme vous dites?
Parce que le bac, c'était un symbole fort. 80% de la population y accédait aujourd'hui. C'était un rituel, un dernier rituel de ce passage, de cette adolescence vers la vie étudiant, vers la vie du jeune adulte. Et le fait que maintenant ce soit un contrôle continu et que les jeux soient déjà faits dans l'intégration des études supérieures globalement avant de passer le bac, quelle valeur a cet examen? Et puis tout changement important pose beaucoup d'inquiétudes, surtout pour les parents dont les enfants sont rentrés en première et en terminale, qui vont un peu essuyer les
plâtres, évidemment. Voilà. Vous parlez déjà de ce fameux bac au passé, c'était le temps d'hier, et aujourd'hui donc on va passer à quelque chose de nouveau. Pourtant, on l'a souvent décrié, ce bac, on a toujours dit que ça embêtait les ados, que ça leur procurait du stress, que de faire cet examen-là, et que parfois ils avaient été très bons élèves toute l'année, puis finalement, l'épreuve du baccalauréat faisait que ils pouvaient aussi le rater, et donc passer cette étape. Finalement, on ne connaît pas la meilleure méthode.
Si, je pense qu'on connaît la meilleure méthode, et c'est de réorganiser le temps de la scolarité. Aujourd'hui, ce qui est génial, et ce qui n'existait pas à notre génération, c'est qu'on peut se former tout le long de la vie. Et donc, mettre une pression sur le bac, pourquoi ? Parce que derrière, il y a la pression dans les études supérieures. J'ai discuté cet été avec une de mes cousines dont la fille fait un parcours études et qui ne lâche pas sa fille après avoir une licence en finance et qui dit « Ah ben non, non, on lui a demandé de faire un master et après, elle fera ce qu'elle voudra. Ouais. » Moi, qui ai une fille qui a aussi fait un parcours d'études, j'ai maintenu le bac parce que c'est le socle commun, c'est la première marche obligatoire. Et je lui dis, sois la meilleure et réussis, et donne-toi les moyens de réussir. En me disant, le métier de danse, c'est précaire, oui, mais elle pourra refaire des études dans 5 ans, dans 10 ans. J'invite à interroger les parents de qu'est-ce que la réussite. On voit partout à la télévision, dans des témoignages de presse, des gens qui n'ont pas eu le bac et qui ont très très bien réussi, d'autres qui ont fait un parcours professionnel très bien et qui font une reconversion et se retrouvent à vendre des légumes, à ouvrir une boulangerie, à faire de la permaculture. Donc, moi je dis...
L'idée en fait que vous proposez finalement, c'est d'apprendre à réussir sa vie plus que de réussir ses études ou de réussir son parcours. Mais alors, finalement, quand vous dites dans votre livre « Élever son ado sans baisser les bras, cette éducation positive », c'est finalement un livre que vous adressez aux parents pour leur dire « Je vous donne quelques clés pour mieux comprendre qui sont vos ados, quelle est cette période finalement de transition ?» Parce que c'est évidemment une période de transition dans la vie. On passe du moment de l'enfance à l'âge adulte et il y a ce mot qui vient du latin, je pense, hein, adolescent, ça veut dire grandir, c'est ce que vous dites dans votre livre. Et c'est cette période-là qui est assez compliquée. Pourquoi elle est si compliquée, cette période de l'adolescence?
Elle est compliquée pour moi parce que on a beaucoup d'imaginaire qui sort justement des études sociologiques, économiques, de ce qu'est un adolescent et de ce que doit être un adolescent. Globalement, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un adolescent et quelle est cette période. On connaît bien maintenant les besoins du petit enfant et on y répond tant bien que mal, avec maladresse, des fois trop, des fois pas assez, et puis c'est la vie. Nos ados ont des besoins et notre société n'y répond pas. Nos besoins des ados, ils ont besoin d'être acteurs, ils ont besoin de participer à la vie, ils ont besoin de liens avec les parents, autant que quand ils étaient petits. Et très souvent, un ado demande autant de présence différemment et de temps de qualité qu'un petit de 3-4 ans. Et nos rythmes professionnels, notre société ne permet pas forcément ces temps de qualité. Ouais. Nos ados ont besoin de bouger. Et quand on regarde les structures des écoles, des collèges et des lycées, il n'y a pas suffisamment de place à l'activité du sport, mais à d'autres activités. Moi, je rêve d'un collège, parce que le collège, c'est vraiment la période la plus difficile, la plus souffrante pour les parents et les enfants, parce qu'il y a un très très grand décalage morphologique de maturité intellectuelle, de maturité émotionnelle. Vous avez des jeunes filles qui, à 14 ans, ressemblent déjà à des femmes très formées, dont celles-ci sont peut-être mal à l'aise sur le regard d'hommes plus matures ou même de leurs copains ados. Et puis, vous avez des jeunes filles, on a l'impression qu'elles sont encore en primaire et pourtant, elles sont en troisième, ouais. Et de même pour les garçons. Et donc, toutes ces différences sociales, culturelles et de maturité vont s'entrechoquer, se confronter. C'est ce qui fait que la quatrième et la troisième peuvent être des passages très, très difficiles.
Voilà. Et parfois, les professeurs ne le comprennent pas forcément ou peut-être ne le voient pas comme un point important, parce que c'est évidemment, vous en parlez, cette période de l'orientation scolaire, c'est souvent ce moment de la quatrième et de la troisième où finalement ces enfants qui ont peut-être ces difficultés qui ne sont pas forcément dites, qui ne sont pas énoncées de manière intelligible, c'est souvent le moment où on va dire bah, « toi, on va te mettre dans une case et tu vas aller à tel endroit » parce qu'on finalement on est passé peut-être à côté de quelque chose.
Bah, moi, je trouve que l'orientation scolaire, elle est trop tôt. C'est une vraie violence, mmh. Surtout qu'en plus, on n'a pas donné les outils à l'enfant à apprendre à se connaître. Et surtout, ce qui est très important, l'adolescence, c'est apprendre à son enfant à s'aimer. Et on ne leur apprend pas ça. On est dans la compétition, on est dans la comparaison, on est dans les objectifs, on est dans du soutien scolaire, on est sur la performance. Et l'enfant, quand on lui demande qui tu es et qu'est-ce que tu aimes, eh ben, il a énormément de mal à le verbaliser et à l'exprimer. Et c'est là où il y a une grande violence. Parce que demander à des jeunes de 15-16 ans de s'orienter pour la première et la terminale, ce n'est pas si facile que ça. En plus, s'ajoute l'angoisse du futur qui est très présent, l'évolution de notre économie, le réchauffement climatique, les métiers de demain, beaucoup de métiers disparaissent, la tension du travail que les parents vivent au quotidien. Eh ben, nos jeunes, ils le savent, ils le perçoivent, ils le ressentent, et ça fait violence pour eux.
D'autant que, comme dit Marcel Ruffo, que vous citez souvent dans votre livre, l'adolescence, c'est le retour à la réalité après l'émerveillement de l'enfance. Donc il y a une espèce de violence qui vient en boomerang, comme ça, à ce moment-là de la vie. C'est-à-dire qu'on part de l'âge un peu idyllique où tout paraît aller dans le meilleur des mondes, et puis finalement, on a une réalité qui fait face à un moment donné, et c'est le temps de l'adolescence. C'est cette violence-là dont veut parler Marcel Ruffo.
Oui, tout à fait. Donc, l'enfant est très attaché à ses parents, à sa famille. Il a une vision un peu idyllique de son père et de sa mère, même si des fois, il y a eu des petits écailles et des petites blessures, des parents un peu trop absents ou des parents trop autoritaires ou un déménagement, un divorce. Et à l'adolescence, c'est vraiment extraordinaire. C'est une prise de conscience de qui je suis et qui vais-je être dans la société. Et c'est vraiment deux questions importantes que l'adolescent va se poser. Et il va s'apercevoir que son père, sa mère, n'est pas ce parent parfait qu'il imaginait. C'est une période de détachement
physique
et symbolique.
Vous dites dans votre livre, c'est l'âge où on ne dit plus « mon papa, c'est le plus fort ».
Voilà, « mon papa, c'est le plus beau ». Et donc, justement, il y a ce détachement et physique et symbolique qui se fait. Parce que pour pouvoir devenir un citoyen, un adulte autonome et responsable, ben, j'ai besoin de cette séparation symbolique, et celle-ci peut être difficile parce que on a des parents qui sont mal à l'aise face à ça, qui sont un peu perdus, qui ont peur, et puis vous avez votre ado qui a ce besoin pour être à lui-même, pour naître au monde, de faire cette séparation, et lui-même peut parfois faire des parcours un peu difficiles pour ce détachement.
C'est pour ça que on parle souvent de l'âge rebelle. Les parents disent « je ne le reconnais plus, où est passé mon petit ange qui disait oui à tout ?» Et finalement, aujourd'hui, il est très, voilà, il veut toujours se démarquer, etc. Il y a cette incompréhension aussi de la part des parents. Elle ne vient pas uniquement de l'adolescent. Le parent aussi a du mal à saisir qui devient finalement ce futur adulte.
Oui, et du coup, moi, j'invite les parents à saisir cette période comme vraiment une expérience à vivre à deux ou à vivre en famille et se dire, mais tiens, qu'est-ce que l'ado me dit de moi ? Qu'est-ce qu'il me dit de mes rêves, de mes amours ? Tiens, il me met en place mes incohérences. Par exemple, je fais un travail que je n'aime pas trop, je râle beaucoup à la maison, ou même si je râle pas, ça se sent. Et en même temps, je demande à mon ado, fais-toi plaisir, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie ? Et moi, je reste dans mon emploi qui me satisfait pas. Voyez ? Donc, c'est une chance à vivre à deux, parce que nos adolescents nous font grandir. Ils nous renvoient aussi les dysfonctionnements de notre couple, mais de notre société. Et c'est pour ça que c'est intéressant.
Une société, bien sûr que tout le monde sait qu'elle est une société de surconsommation. Vous dites qu'il faut éduquer à la consommation. C'est assez important, ça, parce que c'est vrai qu'on a tout de suite, on veut tout de suite aujourd'hui. Et vous dites, quand vous donnez quelques outils, par exemple, poser des bonnes questions. En as-tu vraiment besoin ? Est-ce que tu crois que tu porteras ce vêtement plus d'une fois, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut repenser les choses avant de consommer, réapprendre finalement à avoir un temps entre le moment où on va consommer et le moment où on va faire l'acte de consommation ?
Oui, je pense qu'il faut apprendre, à prendre du temps avant de passer à l'action. Qu'on soit dans la consommation ou dans l'hyperactivité, il faut que ça bouge. Cet été, il y avait des articles sur les parents et les grands-parents qui disaient « mais j'en peux plus, il faut emmener l'enfant à la voile, et puis l'après-midi, il faut faire l'escalade, il fallait en randonner au musée, et à quand ?»
Pendant que d'autres ne font rien aussi, parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers aussi, il faut aussi parfois rappeler certaines choses, parce que certains, c'est vrai que quand on dit, certains parents disent, il faut que tu fasses la voile, la danse, l'équitation, et je ne sais encore quelle autre activité, c'est parce qu'aussi il y a une possibilité financière. Il y a certains qui ne peuvent absolument rien faire d'autre que, par exemple, de regarder la télé ou de jouer un petit peu dans la rue.
Après, je dirais qu'en France, il y a quand même plein d'activités pas chères et gratuites, comme des musées, comme des festivals, et puis des activités, aller à la mer ou marcher, sont des choses qui sont gratuites.
En fait, c'est la multiplicité de ce que va demander les parents, c'est ne pas voir son enfant, en tout cas, ne rien faire, ne pas pouvoir supporter de voir son enfant installé dans un fauteuil à ne rien faire.
Et justement, à l'adolescence, c'est une période de latence où il y a besoin de ce retrait, de se mettre dans ce cocon pour accueillir ce chaos et le réorganiser. Et donc, c'est une période où, effectivement, on a beaucoup de mal à faire bouger les enfants et ils sont dans la période du non. Vous vous souvenez cette période du non quand vos enfants avaient 2 ou 3 ans, qui était justement cette première symbolisation de la séparation et de la prise de conscience de mon autonomie par rapport à maman, elle se rejoue aussi à l'adolescence. Mmh. Et là aussi, comprendre que c'est un besoin, mais à la fois, poser un cadre structurant, c'est-à-dire, il est peut-être plus nécessaire d'aller tous les dimanches voir mamie ou d'aller dans toutes les fêtes de famille ou continuer à faire des musées ou des activités. Mais il y a des choses aussi qui sont non négociables. Ouais. Voilà, donc je vais peut-être voir ma mère toute seule ou peut-être avec mon petit dernier et mon conjoint. Mais il y a des moments où je dis bah, non. Et je vais vous donner un exemple. Ce week-end, je vais voir ma mère. Mon fils de 22 ans, qui est maintenant un adulte, je lui ai demandé de venir. Et c'était non négociable. Parce qu'à chaque fois, c'est « Ah, mais j'ai plein de choses à faire ce week-end. Ouais. » Je t'ai prévenu suffisamment longtemps à l'avance pour que tu viennes faire cet effort.
Ouais.
Et alors, bien sûr que c'est désagréable, mais une fois sur place, il est très, très content. Donc, il faut savoir aussi, comment dirais-je, mieux comprendre les besoins de l'adolescent et sa cette période, et savoir ajuster nos réponses. Et il est important de savoir dire non. Et il est important d'éduquer nos enfants à accueillir l'ennui, le silence, et à se poser la question, ce que je fais, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour mon environnement et les autres? Et ça, c'est de l'éducation à la citoyenneté. C'est une prise de conscience de qui je suis et qui j'ai envie d'être, et pas dans cette consommation, qu'elle soit de télé, de cours, d'hyperactivité, de fringues, dans cette consommation qui fait que nous perdons notre humanité. Et je pense en plus qu'en ce moment, les ressources de la Terre nous disent qu'il est grand temps d'être éduqué à cette prise de conscience, qui je suis, qu'est-ce que je veux pour moi et les autres, est-ce que mon geste est bon, voilà.
Alors certains ont analysé cette consommation, cette addiction aux jeux vidéo, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse quand on parle d'un ado de ces fameux jeux vidéo, et qu'il y a aussi cette notion de gratification. J'avais reçu quelqu'un qui avait étudié cette question-là et qui disait que dans les jeux vidéo, c'est vraiment le moment où, de toute façon, à la fin, on gagne, on est le gagnant, on peut montrer que, voilà, on peut se montrer à soi-même que la vie, ça se gagne. Est-ce que c'est justement voilà, cette perversité-là qu'il faut peut-être faire comprendre aux enfants?
Oui, effectivement. Après, je dirais qu'il n'y a pas que les ados qui sont accros des écrans. Moi, je trouve que nous, adultes, on en consomme beaucoup trop. C'est excessivement difficile parce que ce soit les loisirs, l'information, le travail, tout passe par ces outils-là. Donc, difficile de faire une pause. Effectivement, ça fonctionne très bien sur la stimulation des différents sens, l'ouïe, comment dirais-je, le toucher. Et effectivement, il y a plein de gratifications. Ce qui fait que, du coup, la vie quotidienne est beaucoup plus ennuyeuse et difficile. Et on n'apprend pas, du coup, en famille et à l'école, à gérer les interactions humaines, à dépasser les déceptions et les conflits. Donc, c'est une espèce de, comment dirais-je, de bulle qui nous protège de la réalité. Et ce qui est particulièrement difficile, parce qu'à l'adolescence, c'est je me questionne, je peux avoir peur, je peux être confrontée à des difficultés. Et y a des hauts et des bas. Et il faut savoir, justement, prendre le chemin de la résilience pour dépasser ses blessures et ses difficultés pour être autonome. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de jeunes dépendants aux écrans, mais aussi aux antidépresseurs, et quand on regarde les études de santé des mutuelles de santé des étudiants, on voit que l'ado et le jeune sont quand même pas bien dans leur basket et sont très stressés et angoissés.
Alors, vous dites justement qu'il faut cultiver l'optimisme.
Oui, et je dirais que la confiance est l'énergie de l'amour. Voilà. Quand on regarde les générations précédentes, chacune a eu des périodes difficiles, celle de la guerre, celle de l'après-guerre, celle de la reconstitution, de la reconstruction. On a toujours su créer, innover, inventer plein de choses. Et donc, quand on est enfermé dans la peur, nous, parents, on coupe les ailes de nos enfants. Et quand on est dans la confiance qu'il y a mille et un chemins pour être heureux, mille et un chemins pour réussir sa vie, c'est un merveilleux cadeau qu'on fait à nos jeunes. Et encore, je ne les ai pas en tête sur le livre « Heureux à l'école, tout commence à la maison ». J'avais fait le portrait de personnalités qui avaient tout pour ne pas réussir leur vie et qui, dans leur domaine, excellaient et étaient reconnus comme des gens connus et reconnus, que ce soit des créateurs d'entreprises. Me vient à l'esprit le fondateur de KissKissBankBank, première plateforme participative. Je crois que le jeune qui a créé ça n'a même pas le bac. et qu'il a fait des petits boulots, comment dirais-je, dans le cinéma. Et puis, il avait cette idée-là. Il a rencontré, comment dirais-je, une personne qui a trouvé cette idée intéressante. Et aujourd'hui, il a monté cette plateforme de financement participatif.
C'est la multiplicité des possibles aussi.
Voilà.
Et il faut le savoir, ça, qu'en fait, dans la vie, il y a une ouverture sur le possible. Il ne faut pas s'enfermer, justement, dans cette éducation identique pour chacun, parce qu'on est tous différents. C'était, je crois que vous citez cette phrase aussi, qui est très belle. Vous proposez justement des outils aux parents. Moi, j'aime bien les questions que vous leur proposez de se poser. C'est comment aider mon ado à avoir confiance en lui? Comment répondre à mes besoins et à ses besoins? À quoi dire non et à quoi dire oui? Vous dites aussi comment l'accompagner dans une scolarité joyeuse et épanouissante. Comment mettre en place une communication positive? Comment me faire confiance et lui faire confiance? Le partage aussi, partager ce plaisir d'être avec lui. Comment le responsabiliser dans la vie quotidienne? Voilà, donc en fait, autant de questions qu'on doit se poser. C'est important ça, de finalement, en tant que parent, de se dire, c'est vrai qu'il y a à un moment donné dans l'éducation des moments où ça ne va pas, parce que voilà, y a des colères incontrôlées, incontrôlables, et peut-être aussi se faire une recentrer sur soi-même en tant que parent, peut-être pour poser les bonnes questions.
Arrêter d'être en pilotage automatique, ouais, voilà, et de prendre des temps avec son conjoint pour réfléchir, qu'est-ce que je veux pour mon ado, et mettre de la cohérence. Parce que très souvent, on veut des très bonnes choses pour nos enfants, et dans nos actions, on va être incohérent. Vous avez parlé comment motiver mon ado. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous poser la question. Vous êtes combien à lire un ou deux livres dans l'année que vos enfants ont à lire au collège et au lycée? Moi, j'avais posé la question, et je pose régulièrement la question dans mes ateliers de parentalité positive, et personne ne répond. Mais pour moi, c'est un incontournable. Je veux dire, il faut au moins lire un ou deux livres que vos enfants sont amenés à lire, tout simplement pour en débattre à l'heure des repas.
Bien sûr. Et pour pouvoir partager, en fait.
Voilà, et ça, c'est un partage. C'est un partage tout simple.
Et il y a des parents qui lisent à la place de leurs enfants, ça on le sait aussi.
Voilà, alors il faut éviter. Oui, effectivement, j'ai même connu des parents qui faisaient, même en première et en terminale, encore les devoirs de leurs enfants. Ouais. Et là, c'est absolument pas les aider, puisque l'enfant perd confiance, il se sent pas légitime. Mmh. Et même s'il réussit son examen haut la main et qu'il ait l'école que ses parents ont voulu, et pas forcément que celui qui lui a rêvé, comment après il peut être légitime et se sentir capable et compétent? Vous voyez comment aussi surprotéger son enfant ou faire à sa place est un handicap pour lui. Moi, j'ai rencontré plein de gens qui font des lettres de motivation, voire les CV, pour préparer leurs enfants justement à rentrer dans les écoles. Attention, parce qu'à un moment donné, il faudra bien qu'il fasse sa lettre de motivation tout seul. À un moment donné, comment lui donner confiance? Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, pour ma fille, quand elle a commencé à chercher ses stages de troisième, ou même à postuler dans des écoles de danse supérieures, on lui a expliqué ce que c'était qu'une lettre de motivation, et puis elle a écrit son premier jet. Elle est venue nous voir, et là, on a corrigé, et elle est repartie, elle est revenue. Mmh. Et là, on a abordé la dernière question, l'orthographe, donc ouais. On a pointé les fautes, et elle est revenue. On n'a absolument pas fait sa lettre, et même si elle nous avait apporté sa lettre, on ne l'a pas rédigée. À sa place en disant c'est pas bien, voilà, je te la refais, ou tiens, regarde, là il y a un ER, là il y a un S, mais tu peux pas faire attention. Ouais. Voilà, on va éviter ça. Tout simplement parce que nous avons demain un futur incertain, un futur incroyable à imaginer, et que nous avons besoin d'enfants créateurs qui aient confiance, qui aiment la vie. On a besoin de la joie pour faire face à cette transition de notre société, et ça s'apprend.
Ouais. Apprendre à être joyeux, c'est évidemment fondamental, à l'inverse justement de ces remarques qui rabaissent ces ados, vous le dites, hein, ces phrases qui font mal. Moi, à ton âge, je faisais ceci, ou t'es un incapable, ou regarde ta sœur, elle travaille bien, etc. Ça, tout ça, ça a des conséquences, hein, ce langage négatif.
Alors oui, au fait, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des 12 violences. Et ça abîme le lien d'attachement et ça abîme les relations. Et après, on se demande, mais pourquoi mon ado ne m'écoute pas ? Parce que ce sont des 12 violences. Ouais. C'est comment puis-je te faire confiance, papa ou maman, alors que psychologiquement, avec ces petites phrases, tu me dis que je n'ai pas de valeur, que je n'ai pas de mérite.
Sans se rendre compte, finalement, les parents ne se rendent pas compte finalement de la portée de ces mots.
Non, bien sûr, parce que nous-mêmes, nous les avons très souvent reçus. Mmh. Et ça, ce sont les travaux des neurosciences dernièrement qui a fait prendre conscience que des douleurs psychologiques, menaces, chantage, ont des impacts autant qu'une gifle, que le rejet ou l'abandon d'un parent de ses enfants ou d'un enfant dans la fratrie génère énormément de souffrance.
Ne serait-ce que ne pas savoir exprimer son amour à un enfant.
Ce n'est pas facile, effectivement. Voilà. C'est très surprenant. Nous avons eu beaucoup de mal, encore pour certains, à exprimer son amour comme si c'était une faiblesse, comme si c'était, comment dirais-je... Voilà, je pourrais pas vous dire, mais effectivement...
Alors qu'en réalité, exprimer son amour, dire à un enfant qu'on l'aime, en tout cas lui montrer qu'on lui fait confiance,
qu'on croit en lui.
Qu'on croit en lui, évidemment. Ça va décupler ces possibilités.
Oui, moi, je l'ai remarqué. Vous avez un enfant qui fait un choix scolaire qui n'est pas dans vos attentes ou même qui vous angoisse. Oser dire la vérité, ça veut dire j'ai peur quand tu t'envoies, quand tu pars sur cette voie de formation, d'être cuisinier ou par exemple d'être chanteur ou de créer ta boîte. Dire sa crainte et sa peur, mais dire aussi à l'enfant, bah écoute, si c'est ça, si tu penses que t'es fait pour ça, vas-y, on est là pour t'accompagner. Ouais. Et le vas-y, on est là pour t'accompagner, ça démultiplie l'énergie. Je vais vous raconter un petit exemple personnel. J'ai fait des études d'ethnologie et des études de photographe et je voulais être ethnophotographe pour suivre le travail d'Albert Kahn, un photographe extraordinaire qui a fait, sans le savoir, un travail d'ethnologie. Et puis, je me promène dans la rue et je vois une petite annonce, cherche photographe et je rentre. Et je passe un premier entretien parce qu'à cette époque-là, c'était assez facile. Et la personne me dit, revenez avec des photos. Et je ne suis pas revenue pour le deuxième entretien parce que je n'avais pas confiance en moi. Mais je n'avais pas autour de moi une ambiance familiale suffisante pour parler de cette expérience et de me dire, mais attends, c'est toujours ce que tu as voulu. Vas-y, tu n'as rien à perdre. Donc, j'en ai pas parlé à mes parents, à ma famille et autres. Et je ne suis jamais venue. C'est le plus grand regret de ma vie parce que c'était être photographe pour une émission de télévision incroyable, Ushaya, avec Nicolas Hulot. Ça a été le regret de ma vie. Et quand j'ai découvert ça quelques années plus tard, je me suis dit plus jamais cela. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui,
vous écrivez des livres justement pour encourager les parents à encourager leurs enfants.
Voilà.
Et ça, je crois que c'est évident. C'est finalement une très belle mission que vous avez parce qu'on sait que ça apporte du positif. Cette éducation à être joyeux, à être heureux. Cette intelligence émotionnelle dont vous parlez dans votre livre, qui est vraiment fondamentale, il faut aussi qu'on parle de cette vigilance aussi qui doit s'imposer pour nos ados, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans un monde idyllique. La vie de demain n'est pas simple, on ne sait pas de quoi elle sera faite, vous l'avez dit en introduction. Mais il y a aussi ces addictions, parfois dans lesquelles tombent nos enfants, et même souvent, le tabac, l'alcool, la drogue, les signes d'alerte finalement qui ne trompent pas. Comment on réagit avec son ado, ça c'est un point fondamental parce que ne pas se voiler la face, peut-être plutôt aborder la question sans tabou.
Alors c'est compliqué parce que vous avez des signes et des symptômes qui peuvent annoncer une addiction, une dépression qui ne le sont pas. Un ado a besoin justement de rentrer dans sa bulle, de remettre du désordre dans sa chambre, de moins communiquer avec vous. Et ce n'est pas pour ça qu'il est consommateur ou il est déjà tombé dans la dépendance de la drogue. C'est ça qui est compliqué dans les signes du mal-être de l'adolescent, entre ce qui est une phase et ce qui est normal et ce qui va devenir devenir plus conséquent et plus lourd. Très souvent, nos dépendances, elles sont liées à un manque de confiance en soi et à un manque d'amour. Elles sont liées à nos peurs. J'ai envie de dire que la dépendance des ados sur les écrans, c'est une forme de peur d'avenir. C'est ne pas savoir faire face à la déception, c'est ne pas savoir faire face à l'effort. Et la vie, c'est cela. Mmh. La vie, c'est le jour et la nuit. Et si on n'a pas appris à son enfant à accueillir, comment dirais-je, ces moments-là, effectivement, on aura tendance à se mettre dans cette bulle et devenir accro et dépendant aux écrans. La dépendance aussi à l'alcool ou à la drogue, au-delà du plaisir, du rituel et de dépasser les interdits.
C'est un fléau aujourd'hui quand même chez nos ados, voilà. Et qui montre cette dépendance montre même ce mal-être, cette envie d'aller trouver autre chose pour aller mieux, quoi.
Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'on ne répond pas aux besoins des ados. Alors, je ne me souviens plus, j'ai cité dans mon livre une étude, je crois, c'est l'Islande ou l'Irlande, qui était gangréné par ce fléau de l'alcool et de la violence, de la délinquance, il y a quelques années, ont mis un programme extraordinaire dont les résultats ont été fortement significatifs, c'est-à-dire d'ouvrir des espaces à l'activité sportive et à la créativité adaptée, aux horaires des ados, et surtout mis en place un accompagnement parental pour recréer ce lien d'attachement et recréer la communication parent et ados. Si vous savez maintenir une communication, créer ce lien d'attachement ou réparer ce lien d'attachement qui peut être abîmé par la vie, vous verrez que vos ados y consommeront peut-être un peu trop, mais ils ne tomberont pas dans la dépendance. Mmh. Et ça sera certainement peut-être le sujet d'un autre livre, car c'est important.
Alors, on l'attend avec impatience, Nathalie de Bois-Grelier, puisque vous êtes une grande spécialiste de l'éducation de nos enfants, nos ados. Je rappelle votre livre « Élever son ado sans baisser les bras, le guide pratique de l'éducation positive » paru chez Albin Michel. Et pour terminer, j'ai noté cette citation que vous notez dans votre livre, celle de Marcel Proust. « Il n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif ». Et je crois que voilà, c'est tout est dit, donc il faut croire en nos ados. Et merci infiniment, peut-être un petit mot de conclusion, merci infiniment pour nos ados qui redémarrent leur vie scolaire aujourd'hui, enfin en tout cas ces jours-ci, à qui on souhaite beaucoup, beaucoup de réussite.
Ben, je dirais que la confiance, l'énergie de l'amour, et que c'est un parcours à faire en famille et qui nous fait grandir aussi, nous, en tant que parents.
Merci infiniment Nathalie de Bois-Grelier d'être venue nous parler des ados et votre livre « Élever son ado sans baisser les bras » chez Albin Michel. Quant à vous, je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une très bonne santé, puis je vous retrouve la semaine prochaine.
Merci beaucoup.